Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio-Canada. France Inter.
RFI. Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Guérard.
Et bonjour à tous, bienvenue dans cette librairie francophone estivale, ouverte à toutes les cultures. Voici le sommaire. Sixième étape, sixième épisode de ce grand voyage culturel francophone avec une déambulation mondiale et ses artistes et auteurs de toutes origines. Tahar Ben Jelloun sera dans notre club francophone tout à l'heure pour une carte blanche un peu particulière car nous serons en public avec ses invités, l'écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani, prix Goncourt cette année pour Chanson douce, et le chanteur slameur Abdal Malik. Entretien croisé autour de l'œuvre et des engagements de Tahar Ben Jelloun, accompagné de lectures, une séquence inédite réalisée dans le cadre du salon Radio France Fête le Livre et diffusée pour la première fois sur les ondes. Le grand entretien aujourd'hui, ce sera avec Zep, le papa de Titeuf, autour de l'adolescence. Nous irons au musée Magritte à Bruxelles avec une séquence unique à la radio. Pour la première fois, le dessinateur Philippe Geluc nous fait visiter le musée Magritte et il commente l'œuvre de l'artiste. On commémore d'ailleurs cette année le 50e anniversaire de la mort de Magritte. Ce sera très précisément le 15 août.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Guérard.
Ambiance estivale avec un livre de poche pour votre été. Comme chaque semaine, on vous propose un entretien avec un auteur qui sort en poche un roman que nous avons sélectionné pour vous. L'auteur, scénariste et réalisateur Philippe Claudel a publié L'arbre du pays Toradja début 2016. Il est sorti au printemps au livre de poche. Bonjour Philippe Claudel.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes de retour, vous aussi, on est ravis de vous retrouver.
Oui, avec grand plaisir.
Le narrateur, vous Philippe, en tout cas là dans le livre, perd son meilleur ami Eugène. Cette disparition est un point de départ à une nouvelle vie. On s'accommode toujours de la disparition des autres.
On essaie. En tout cas, on vit avec, on est forcé de le faire. Et quand on avance dans la vie, comme moi qui est maintenant pas loin de 54 ans, bien sûr, on voit partir autour de soi des figures chères, des figures aimées, des amis. Il faut déjà avoir la chance d'avoir un ami pour le perdre, si je puis dire. Et ce qui avait été mon cas, ce qui est le cas de beaucoup de gens. Et ce qui m'intéressait, si vous voulez, c'était de réfléchir sur la façon dont nous cicatrisons nos peines et nos blessures. Et dont nous ne sommes peut-être pas plus forts, mais en tout cas peut-être plus humains, plus adoucis. Et comment cette créature, en apparence fragile, et l'homme parvient quand même, avec sa sève, à amalgamer des absences et à continuer dans la vie, parce que c'est important de continuer vers la lumière.
Oui, c'est ça, c'est que notre vie est plus forte que tout. C'est très égoïste, ça, quand on y pense.
C'est plus fort, oui, mais c'est en même temps ce qui fait la singularité de l'homme. C'est-à-dire que nous sommes excessivement fragiles. En même temps, nous développons des forces de reconstruction, de rebond, de nouveaux départs, de renaissance qui sont stupéfiantes. Et alors, au quotidien, ça peut se manifester par peut-être un peu plus d'attention aux autres lorsqu'on a soi-même traversé des épreuves.
Au tout début du roman, vous dites avoir peur de rien pour vous. Vous racontez que vous craignez plus la disparition de ceux qui vous entourent que la vôtre. Et ça aussi, c'est une preuve de grand égoïsme.
Oui. Alors c'est difficile à expliquer comme ça parce que le raisonnement est un peu plus, comment dirais-je, pédagogique dans le livre. Mais c'est vrai qu'on est tous un peu pareil, je crois. Enfin, on peut être effrayé par sa propre disparition peut-être, mais celle qui est la plus terrible, la plus tragique, c'est celle de ceux qu'on aime autour de soi. Et bien entendu, quand on réfléchit, on pourrait dire que c'est de l'altruisme, mais non. C'est simplement qu'on pense à soi. On se dit mais comment vais-je survivre, comment vais-je vivre sans eux, sans elles. Et c'est ça qui peut parvenir à nous terroriser.
Votre personnage fait une sorte de crise de la cinquantaine, peut-être que ça vous est arrivé.
Une crise douce.
Oui, une crise douce.
Non, ça peut être une crise douce. Oui.
Limite, hein, parfois, hein, quand même. Hein,
non, mais si vous voulez, quand on arrive à cet âge-là, on sait très bien que devant soi, le temps sera sans doute beaucoup plus court que celui qui est derrière. Ouais. Donc ça peut produire une forme de mélancolie, pas de tristesse. Moi, je ne suis pas un être triste, mais la mélancolie me plaît beaucoup.
Vous faites un peu le grand sage, quand même. Hein.
Oh non, grand singe.
Les singes en général.
Non, moi, j'ai aucune sagesse, parce que
Si, à 53 ans, ça fait un peu grand sage, Philippe Claudel. Vous êtes un peu là, je réfléchis sur ma vie, j'ai peur de la mort des autres, j'ai peur de la mienne, j'ai peur des maladies, etc. Et en même temps, je pose quand même une réflexion.
Mais ça, j'ai pas attendu 50 ans pour réfléchir, donc heureusement quand même, parce que ce serait un peu tard. Oui. Mais je récuse l'étiquette de sage parce que ça voudrait dire que je détiens un savoir. Or, je n'en sais rien. Et chaque livre, évidemment, est une question. Et celui-là pose beaucoup de questions sur, oui, comment nous sommes, qui nous sommes, comment nous pouvons vivre. Et surtout, de quoi sommes-nous faits ?
Ouais. Parlons de cet arbre du pays Toraja, Philippe Claudel, avec cette histoire que vous racontez dans les premières pages. Sur une île indonésienne, l'arbre devient sépulture pour les jeunes enfants.
Oui, le peuple Toraja est un peuple qui a des rituels funéraires qui peuvent nous paraître étranges, et notamment l'un que j'ai constaté, qui n'est plus d'actualité, mais qui l'était encore il y a quelques années. Quand un très jeune enfant mourait dans un des villages du pays Toraja, on creusait une cavité dans un très grand arbre, et on inhumait le petit corps dans cet arbre, en fermant le trou avec des branchages et des linges. Et peu à peu, donc, l'écorce se refermait sur le corps et emmenait l'enfant vers le ciel. On m'avait montré cet arbre, j'avais trouvé cette pratique absolument extraordinaire, parce que c'était confier un enfant mort, un corps mort, à un vivant. Et non pas l'enterrer ou le brûler, mais l'incorporer à un organisme vivant, en l'occurrence un végétal, de façon à ce qu'il participe à son existence. Et ça a été tout le début du livre et toute la réflexion sur ce dont nos corps sont faits, c'est-à-dire qui accueillons-nous en nous et qui faisons vivre en nous alors qu'ils ne sont plus là.
Il y a une phrase qui m'a intrigué dans votre roman, Philippe Claudel, c'est celle-ci. « Je me demande ce que serait le monde si les humains étaient réduits à leur voix, si tous les corps disparaissaient d'un coup et qu'il ne resta plus que les voix. »
C'est l'homme de radio que vous êtes, effectivement, ça doit interroger.
Des formations professionnelles.
Non, mais ça, c'est des... Oui, c'est
non, mais
des
qu'est-ce que vous voulez dire par là, exactement ? J'ai pas bien compris, j'ai pas bien saisi.
Mais parce que parfois, je pars sur des réflexions qui sont des romans que j'écris pour moi seul et dans ma tête, si vous voulez, des romans de science-fiction, sur la disparition des corps et sur le fait que nous sommes quand même incarnés très présentément dans une voix. Et que le grain de la voix, le corps, la chair de la voix nous définissent aussi. Et j'imagine parfois, donc, à la suite d'un événement, une catastrophe dont je ne connaîtrai pas la nature, il ne reste plus que les voix sur Terre. Plus aucun corps, plus rien, plus aucun contact, simplement des voix parlant.
L'arbre du pays Toraja de Philippe Claudel est paru en poche au Livre de Poche. C'est une visite de musée toute particulière que nous vous proposons aujourd'hui avec Philippe Geluc, qui décrypte le musée Magritte et René Magritte lui-même, mort le 15 août 67, il y a tout juste 50 ans. On en parle sur place après une découverte musicale avec l'artiste guadeloupéen Roger Raspail et un extrait de son titre Manzé René dans la librairie francophone estivale.
Chanti la ou qui si c'est là, pas qu'à t'y aller. Ou qu'à t'en mourir, qu'elle ait fait le travail, pour courir, elle fait manger. Mais les gars qui passent, quand il est là, ou qui du bout là, et pas qu'à faire ailleurs. Ou qu'à garder vous le passer toute la journée, ou qu'à t'en l'ennui tomber. Aïe aïe aïe, quelqu'un qui fait au maman, pas qu'à t'en passer, passer en guerre, gentil, pas t'y habitué. Les verbes comme ça, ou toujours parler pour nous. Oui maman, mais à présent parti, vous caressez envie d'un tête à nous tenter. La vie passée, on va se tourner, mais faut qu'on s'y avance.
On salue tous les créoles du monde qui nous écoutent et on leur dédie Roger Raspail, Manzé, René sur votre radio francophone.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Kérad.
Le 15 août 2017 marquera le 50e anniversaire de la mort de René Magritte. Le musée Magritte de Bruxelles se mobilise pour l'occasion avec de nombreux événements. Nous sommes allés sur place avec Philippe Geluck, le dessinateur du chat, fasciné par Magritte et par ce quartier très très royal.
Nous nous trouvons place Royale, sur laquelle trône la statue de Godefroy de Bouillon, que vous connaissez de réputation. Donc c'est une place néoclassique qui est voisine du Palais Royal, du Parc Royal, de la Rue Royale. Tout ce qui est ici, c'est royal.
Bonjour Philippe Geluck.
Bonjour Emmanuel Kérad et bonjour à tous.
Merci de nous accueillir à Bruxelles. On va entrer dans le musée Magritte dans quelques instants. Mais avant cela, dans 2-3 ans, aux alentours de 2020, il y aura le musée du chat qui va s'installer justement presque à côté de cette place royale, en tout cas à quelques mètres de là.
Oui, Magritte, Charles Quint et moi, nous serons voisins, et même nous serons voisins du roi et de la reine des Belges qui habitent juste en face.
Alors on va voir l'endroit, en avant-première.
Je vous montre l'endroit. Il s'appellera le musée du chat et du dessin d'humour. Vous voyez cette grille qui est fermée, surmontée par deux lions. Ouais. Ça s'appelle l'entrée des lions. Ce sont des félins aussi. Et le musée du chat va se retrouver, on voit juste le bout de machin qui dépasse là.
Là, le bâtiment gris, là.
Ça, c'est le bâtiment, oui, qu'on va abattre. C'est un musée un peu caché. C'est juste magique parce que, regardez, on est en face de chez le roi et la reine.
On a une esplanade incroyable, là, juste devant nous. Là, c'est la demeure du roi.
C'est la place des palais. Voilà. En face, vous avez le palais des académies. Et pile poil, à l'opposé, il y aura le musée du chat et du dessin d'humour.
Bon, on y va au musée Magritte ou pas? Ou on reste là?
Moi, je trouve qu'on est bien au musée
du chat. Mais non, allez.
Nous pénétrons dans l'ascenseur.
Il est immense cet ascenseur.
Il est impressionnant. Il peut contenir 48 personnes.
C'est vrai?
Oui.
Oui, c'est marqué.
Non, je le sais de mémoire. Et le jour où il est en panne. Alors, oui. Voilà, tu vois, là, tu, à travers une fenêtre ouverte sur la paroi de l'ascenseur, on voit ce tableau, ce corps de femme divisé en plusieurs morceaux.
C'est vrai, on veut voir le sexe. Là.
Voilà.
Voilà, on arrive devant le portrait, déjà, de René Magritte.
Grande photographie, portrait célébrissime, où il ferme les yeux. Ici, le parcours dans le musée Magritte est très envoûtant, parce qu'on est déjà dans l'obscurité, on est dans les travaux du début, et ça m'enchante de pouvoir dire que Magritte a dessiné de la publicité, de pouvoir le dire à des gens qui me reprochent parfois d'en dessiner moi-même en disant « Oui, mais non, c'est notre métier. Oui. » Quand on crée des images, et tout ça est évoqué, et c'est les débuts de cet immense talent qui va éclairer la planète entière de ses idées, de sa peinture, et on voit les balbutiements.
Il y voit une façon de dépasser la réalité, de bannir aussi l'esprit de déjà-vu. Comme vous d'ailleurs, avec le chat qui fait un pas de côté. Magritte fait un pas de côté, tout le temps.
Déjà, c'est très aimable de nous mettre dans la même phrase, avec un regard qui n'appartient qu'à nous. Et en fait, les choses, elles ne changent pas. Je veux dire, une pomme, bah tiens, voilà, on arrive, on parle de Magritte, on arrive sur la pomme. Une pomme, un arbre, une chaise, sont une chaise, une pomme ou un arbre. Mais la façon de le regarder change tout.
Mais il est provocateur, il aime l'humour subversif, comme le chat aussi.
Oui.
Je ne vais pas vous comparer tout le temps, mais...
Non, mais alors vous feriez mieux de...
Là,
vous,
pour le coup,
non, non. Mais vous feriez mieux de construire vos phrases dans un autre sens en disant « Le chat le aime chat, l'humour oui. provocateur comme Magritte ». Parce
c'est
que
ça.
C'est comme... Mais je ne sais plus... C'est Alphonse Allais qui avait dit de quelqu'un qu'il faisait du plagiat par anticipation.
Oui.
C'est-à-dire que comme il avait repris l'idée d'un autre, il a dit « Oui, mais lui a fait du plagiat par anticipation ». Et c'est très surréaliste comme pensée. Il y a un truc, enfin, voilà, Magritte regarde une cheminée. Et puis tout à coup, il voit un train qui sort à toute vitesse de cette cheminée. Et il le peint, et ça le fait rire, et moi aussi.
Alors, on change de salle, là, pour la librairie francophone oui. estivale au musée Magritte, ici à Bruxelles, avec cette toile, Philippe Geluck. On va se rapprocher parce que c'est un symbole, l'un des symboles, en tout cas, l'histoire centrale. On a un personnage avec un drap qui oui. lui couvre le visage. Alors, nous commémorons cet été le cinquantenaire de la mort de René Magritte. Magritte, né en 1898 à Lessines, près de la frontière française, d'ailleurs, en Belgique, dans une famille modeste et surtout teintée de drame. Sa mère, Neura Asthénique fera plusieurs tentatives de suicide jusqu'à ce qu'elle y parvienne en 1912. Magritte a seulement 14 ans et on retrouve la dépouille de sa mère seulement 17 jours plus tard
avec sa chemise qui voile son visage. Et ça, ça va le traumatiser toute sa vie.
Bah oui, on comprend. Et il a peint une série de portraits, effectivement, avec
les visages voilés.
Les visages voilés, ça dit plein de choses. En fait, c'est la mort, effectivement, qui se dépose sur des personnages, mais seulement en partie. C'est-à-dire qu'elle reste vivante, et c'est comme si en linceul ne recouvrait qu'une partie du corps. Mais on était là tout à l'heure.
Oui, on a fait le tour.
On était là de dos,
On va descendre d'un étage. Parce que le musée Magritte est comme ça, hein, sur trois niveaux, trois étages, trois salles.
C'est une descendre dans un musée est tellement agréable plutôt que de monter. C'est d'ailleurs le principe que je vais adopter pour le musée du chat. On va descendre, et puis on remontera dans un très grand ascenseur vers le restaurant et la vue sur le Palais Royal.
Magritte dira « Je déteste la résignation, la patience, l'héroïsme professionnel et tous les beaux sentiments obligatoires. » Ça vous inspire quoi, Philippe Gueluc, ça ? Les beaux sentiments obligatoires ?
Bah, ça veut dire, le classicisme, le conformisme. C'était un rebelle, c'était un gamin. Moi, c'est ça qui m'enchante. Et on voit, pendant qu'on parle, on voit un petit film, là, parce qu'il y a des écrans qui diffusent des films, comme il fait le pitre. Mais il reste un gamin dans la façon de nous déstabiliser et de nous surprendre et de faire trébucher la réalité.
Il est dans cette forme de liberté et dans un lien très fort à la révolte. Il dit « la révolte est un réflexe de l'homme vivant ».
Oui, il me semble. Je ne peux qu'abonder dans son sens.
Vous pouvez être contre, hein.
Non, pas dans ce sens-là.
Non, pas parce que c'est Magritte que...
Oh non, pas du tout. D'ailleurs, je ne me gêne jamais. Oui. C'est incroyable quand les visiteurs parlent fort. Hein, moi,
on dérange tout le monde depuis tout à l'heure, hein, mais bon.
On devrait... Non, alors, si je trouve un tableau de Magritte moche, je le dirai. Mais chaque artiste est ce que dit Magritte. Chaque artiste est un anticonformiste et quelqu'un de libre dans sa tête, qui rue dans les brancards.
Pas tous, Philippe. Non, pas tous.
Non. Non, c'est vrai. Non, mais il y a les artistes. Non, mais enfin peut-être l'artiste comme je le rêve. Enfin, il y a un truc qui nous relie avant tout, Magritte et moi, c'est qu'on adore faire les cons. On est des gamins.
Bon, allons faire les cons devant une toile, Philippe Gueluc, sans trop exagérer non plus. Mais y a-t-il une toile que vous appréciez particulièrement, que vous avez envie de nous faire partager ?
J'ai juste une fascination absolue pour l'Empire des Lumières. Actuellement, il y en a deux qui sont exposées ici. Il en a peint 18. C'est une chose qu'on ne sait pas toujours. Et en fait, l'idée était tellement forte, le tableau était tellement beau, qu'il y a des collectionneurs qui lui ont dit « je le veux ». Et elle dit « ben oui, mais il est vendu ». Ah ben oui, mais faites... Eh ben, il dit, je vais vous le refaire. Et donc, il l'a fait 18 fois, le même tableau. C'est donc, vos auditeurs verront évidemment cette toile parce que c'est une des plus célèbres de Magritte. C'est une rue dans laquelle il fait nuit. Il y a de la lumière dans les maisons. Et puis, le ciel, lui, est encore un ciel de jour. Il y a ce réverbère, il y a ces allumés, il y a ces lumières.
Il reflète sur l'eau parce qu'il y a de l'eau, il a dû pleuvoir.
En fait, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'on pense que c'est une image surréaliste. Or, c'est juste la réalité. Si on y réfléchit, nous avons tous vécu cette image-là, un jour ou l'autre. Parce que c'est une image qui existe. Un soir d'été, quand il est très tard et que l'obscurité est déjà là et qu'il est presque temps d'aller se coucher, mais que les journées sont encore tellement longues que le ciel est encore illuminé. Je rêve. Un jour, mais j'en ai parlé avec le conservateur du musée, d'un jour pouvoir réunir les 18 empires des Lumières dans une exposition qui ferait un événement considérable. Mais je crois que c'est un rêve. Mais c'est un rêve à la Magritte.
Merci beaucoup Philippe Gueluc pour cet entretien en déambulation ici au musée Magritte à Bruxelles. C'était un grand plaisir de vous trouver hors cadre comme ça, dans cette émission estivale. C'est fait pour ça. C'est un grand club francophone, ouais. On forme tous. Toute l'œuvre du chat, évidemment, c'est chez Casterman et le musée du chat dans 2-3 ans, 2020.
Oui, exactement. Okay. Je vous y attends. Mais on refera un petit tour ensemble quand il sera ouvert.
Merci Philippe.
À suivre l'entretien de la semaine avec la star des enfants, Zep, père digne et parfois indigne de Titeuf, est dans la librairie francophone estivale. Un voyage s'accompagne toujours de musique et donc voici le groupe Fishback.
Dans mon cœur, le feu s'allume.
Fishback avec feu sur votre radio francophone.
La librairie francophone estivale.
Si le monde de l'adolescence vous fascine, vous inquiète ou vous fait regretter des grands moments de votre vie, eh bien cette séquence est pour vous. Voici l'entretien de la semaine avec le héros de tous les enfants, ou presque. Zep est dans la librairie francophone pour Titeuf volume 14. Bienvenue en adolescence, paru chez Glénat. Ça y est, il sort un peu de l'enfance votre personnage. Vous sortez un peu de l'enfance vous-même?
Moi, ça fait un petit moment quand même. Mais oui, lui, il s'évertue tout au long de cet album à devenir adolescent. En fait, il a pas envie que l'adolescence le prenne en traître, donc il veut la provoquer. Et il va se renseigner avec ses copains pour savoir ce qu'implique la puberté, ce que ça veut dire. Ils vont aller observer les adolescents, noter tout ce qui fait leur particularité et essayer de les singer, de se déguiser en adolescent et de devenir adolescent avant l'heure.
Alors, on a fêté les 20 ans de Titeuf dans cette émission il y a 2 ans, je crois.
3 ans.
Ouais, j'essaye de nous rajeunir au Salon du Livre de Paris, hein, c'était. Oui. Vous avez vendu 20 millions d'albums. Mm-hmm. Titeuf est traduit dans plus de 25 langues. C'est la BD suisse la plus vendue de l'histoire, en fait.
Oui, je pense, ouais.
Eh oui. Ça vous fait quoi aujourd'hui, ça?
Ah bah, ça me fait plaisir évidemment. Je fais des albums pour qu'ils soient lus. Après, moi, j'ai pas prémédité ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça s'est emballé et je vois ça avec un certain émerveillement et amusement.
Dans cette nouvelle BD, il y a un grand drame, Zep. Titeuf n'a plus sa mèche blonde, il n'a plus son attribut identitaire.
Ouais, ça c'est quick. Et en même temps, voilà, il se fait arracher sa mèche au début par des filles. Pour une fois, les filles s'arrachent Titeuf, alors que ça fait 13 albums qu'il désespère d'en intéresser une seule. Et là, il en a 3 qui s'intéressent à lui d'un coup, donc évidemment, il gère pas très très bien. Et tout au long de l'album, sa mèche va repousser, mais il va aussi s'intéresser à tout faire repousser, les poils, les boutons, tout son être doit pousser. Donc voilà, c'est sa grande préoccupation.
Du coup, il a un bonnet presque tout l'album. Alors ça se passe dans un musée où il y a des statues grecques. Et Nadia, l'une de ses copines, lui dit en montrant une des statues, lui, on lui a bien pris son zizi, il n'en fait pas toute une histoire.
Exactement. Et moi, j'ai toujours été marqué de ces visites dans les salles des plâtres, dans les musées, où ils ont tout ce qui dépasse, qui est cassé. Donc généralement, tous les sexes sont cassés. Ils ont l'air d'être pas du tout gênés, comme ça, de se balader à travers les siècle sans zizi.
Problème de pré-ado, donc 2 filles sont amoureuses de lui, 3, il y en a une troisième qui arrive. Son copain Manu, qui au passage, tiens, d'ailleurs je tenais à vous le dire, Zep est le plus idiot de la bande, hein, Manu.
Pourtant il a un joli prénom.
Oui, je vous le fais pas dire, merci pour tous les Manu en tout cas, on passe pour des abrutis finis là-dedans. Et il vous propose, lui, de faire 2 mi-temps. Un mi-temps avec Nadia, un mi-temps avec Ramatou. Ils ont des idées, les enfants, en fait.
Mais oui, c'est plein de logique, en fait, le mi-temps amoureux, mais c'est assez mal reçu de la part des filles, effectivement.
Oui, toujours, hein, quel que soit l'âge, je crois.
Ouais, ça passe pas très très bien. Mais des deux côtés, hein, les garçons non plus n'aiment pas beaucoup.
Les jours de congé, je cite, elles peuvent profiter de faire des trucs de filles, comme de la danse ou peigner des poneys.
Ben oui.
Ils sont déjà misogynes.
Mais c'est simplement, Titeuf, il est fasciné par les filles, hein. C'est les filles qui font la loi, clairement, chez Titeuf. Il est fasciné, il a envie d'avoir une amoureuse, mais il a envie d'avoir une amoureuse pour dire à ses copains qu'il a une amoureuse. Pour lui, c'est une histoire de place dans le groupe. Mais de passer du temps avec des filles, évidemment, après 2 minutes, il sait plus tellement quoi faire avec elle. Il est pas encore à l'âge où il y a un désir.
C'est une phrase misogyne, c'est ça.
De quoi?
Peigner des poneys et faire
peigner
de
des poneys. Ouais. Mais j'en donne toute la responsabilité à Titeuf.
Oui, parce que, dans une interview, vous dites, ma seule responsabilité est d'être Titeuf. Lorsque nous ne fusionnons pas, je jette la page.
Ouais, exactement.
Donc là, vous fusionnez. C'est
vrai. J'ai fusionné le temps de l'affaire, bien sûr.
Bien.
Et il faut avouer qu'à cet âge-là, les petits garçons sont souvent très, très misogynes.
Bon.
Et c'est vrai que quand on observe les adolescents depuis l'enfance, ça a quelque chose d'assez inquiétant de se dire qu'on va devenir comme ça. Y a-t-il quelque chose de plus inquiétant que ça? Je pense pas. Je pense que c'est le plus gros séisme qui nous arrive à part la naissance et la mort. Après, tout coule. Mais ce passage-là, il coule pas du tout. Il est brutal.
Il a pas coulé du tout pour vous?
Franchement, et non, et avant, j'étais très, très inquiet. Après, une fois qu'on est pris dedans, et heureusement, on n'est pas tout seul, tout le monde est dans la même histoire, ça va.
On s'en aperçoit pas trop, si.
On s'en aperçoit par,
enfin. Vous souvenez-vous du passage à adolescence?
Alors, au moment où le passage se produit, non, mais je me rappelle de me regarder dans la glace et me dire, mais qui est ce type? Ah oui. Et de trouver bizarre et surtout de pas savoir quoi faire avec cet immense corps qui m'était donné là tout à coup. Et surtout, on passe une dizaine d'années avec tout le monde qui nous dit toujours qu'on est mignon, qu'on est joli, qu'on est mignon. Et donc au bout d'un moment, on a bien compris qu'on était mignon. Et au moment où on aimerait être rassuré parce qu'on est plus, on se sent plus du tout ni mignon ni joli, tout le monde nous dit tu pues, t'as les cheveux trop longs, t'as des boutons, va te laver, va prendre une douche. Enfin, c'est pas très, c'est assez ingrat. Et à l'adolescence, ce qui change le plus, moi je trouve, c'est les parents, en fait. Moi, je me suis aperçu après coup que j'avais changé, mais au moment de l'adolescence, j'avais l'impression que tout le monde autour de moi changeait. Pourquoi tout le monde était salaud avec moi à ce moment-là ?
Vous dites qu'un adolescent, il doit avoir l'air pas content et tirer la tronche tout le temps.
Oui, alors effectivement, l'observation de Titov, c'est ça. Ouais. Et il se désespère parce que il fait tout ça, il tire la tronche, et il a l'air pas content, il fait tout comme les ados, mais il grandit pas. Et il dit à sa maman une phrase dans une scène qui est un peu plus tendre dans l'album. Il dit, tu vois, je suis un grand qui grandit pas. Ouais. Et c'est un peu son drame. C'est le drame des héros de bande dessinée, c'est que le temps passe et ils grandissent pas. Quoi.
Ouais, normalement, il a 20 ans là.
Hein. Bah, il 23.
22, 23, oui, ouais, c'est ça. Les ados, ils veulent toujours être pas comme les autres. C'est pour ça qu'ils s'achètent tous les mêmes habits différents.
Voilà.
C'est complètement ça.
C'est Manu qui dit ça, je crois. C'est,
oui, bah,
il a plein de bon sens.
Ah bah ouais, super. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est très drôle, Zep. Cet épisode est vraiment très réussi. Vous glissez des allusions habiles. Les dessins sont presque cachés. On voit passer Gottlieb à un moment ou c'est moi qui
rêve ? On voit passer Gottlieb, ouais, oui. Bravo. Ouais, il passe.
Ouais. Avec un hommage à Gottlieb.
Avec un ballon fluide glacial. Il passe presque dans tous mes albums, Gottlieb. Je l'aime beaucoup. D'accord. C'est un peu mon papa.
Oui, je sais. Ouais.
Dans la bande dessinée. Donc,
on l'aime beaucoup ici aussi. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut imaginer que Titeuf sorte vraiment de l'enfance avec les aventures d'un ado, là? Maintenant que vous avez mis le pied à l'étrier.
Je pense que je peux plus revenir en arrière. Là, il arrive vraiment à la porte de l'adolescence. Et pendant très longtemps, pour moi, c'était clair que Titeuf, il était lié à l'enfance. C'était le monde de l'enfance. Mais j'imaginais aussi que Titeuf allait m'accompagner le temps de 2, 3, 4 albums. Ça fait 23 ans. J'ai du mal à imaginer qu'un jour je vais arrêter Titeuf. J'aime faire d'autres projets entre deux.
Non, mais c'est un Titeuf,
j'aime
plus grand.
J'aime le retrouver. Donc voilà, je me dis que quand j'aurai 80 ans, je vais pas continuer à parler de l'enfance. Donc il faut bien que je l'emmène ailleurs.
Merci beaucoup, Zep.
Merci.
La librairie francophone estivale.
Et sachez que Zep sort un nouvel épisode de Titeuf, le numéro 15 à fond le slip, paraîtra le 31 août pour la rentrée chez Glénat et il sera encore question de l'adolescence. Notre séquence humour à présent, chaque semaine, vous le savez, un humoriste francophone porte un regard sur nos sociétés et cultures francophones. On retrouve aujourd'hui l'humoriste belge Cindia Isarelli que les auditeurs de la RTBF connaissent bien. Bonjour Cindia.
Bonjour Emmanuel. Alors j'ai une petite question pour vous en fait aujourd'hui.
Oui.
Je voulais savoir quel métier vous rêviez d'exercer quand vous étiez petit ?
Journaliste. Ou pilote de Formule 1, mais j'ai choisi journaliste finalement.
Ah ouais, c'est amusant. Mais si je vous pose la question, c'est justement parce que la francophonie, c'est entre autres une formidable source d'inspiration professionnelle.
Oui.
Et figurez-vous que moi, enfant, je rêvais d'être étymologiste.
Oui.
Ou linguiste. Ou fleuriste. Oui, bon, en fait, du haut de mes 7 ans et sur base de mes nombreuses lectures, 4 romans jeunesse et 6 bandes dessinées, attention, j'avais décrété que si un mot se terminait en « iste », ça en faisait forcément un métier passionnant. Vous voyez, étymologiste, alchimiste, duelliste, exorciste, caricaturiste, contrebassiste. Et donc, j'étais une enfant de principe, ça se sent tout de suite. Et j'étais un peu du genre jusqu'au boutiste. Voilà encore un. Et je vous avoue que depuis, j'ai appris que bien d'autres mots se terminaient en iste et j'ai reconsidéré ce principe un peu imbécile. Mais tout ça pour dire que très jeune, j'avais déjà des penchants francophiles assez troubles. Et d'ailleurs, à 6 ans, pour Noël, je savais à peine lire, j'ai réclamé un dictionnaire. Et donc mes parents, loin de s'imaginer la gravité de mon cas, ont cédé à mon caprice et j'ai donc reçu mon premier dictionnaire dans lequel j'ai plongé avidement. Et j'ai trouvé ça mais formidable. Non mais c'est vrai, on fait les blasés là, mais quand on y pense, des mots, mais pas des mots, tous les mots là à disposition, rangés dans l'ordre et en plus avec une notice d'usage pour chacun d'entre eux, avec du contexte et parfois même avec une image. Oui, c'était un Larousse de poche. Robert, c'est venu plus tard avec la puberté. Et puis là, c'était foutu. C'était la porte ouverte à toutes les fenêtres. J'ai chopé toutes les maladies textuellement transmissibles de toute l'histoire de la littérature. Je lisais mon dictionnaire la nuit, j'en avais mal au poignet. Je corrigeais les adultes la journée, je récitais des définitions par cœur. Et alors, Emmanuel, je vous fais grâce de ce que mon père appelle encore douloureusement ma période rose. C'est-à-dire quand j'ai découvert les pages roses des proverbes et locutions latines au milieu du dictionnaire et que j'ai commencé à les mémoriser pour les caser à tout bout de champ dans la conversation. Alors, bizarrement, dans le large éventail bigarré et assez fascinant des métiers de la francophonie, finalement, j'exerce actuellement un des plus incongrus, le métier de farceur-affineur, qui consiste en gros à passer le plus clair de mon temps devant un micro, à débiter en tranches très fines des facéties langagières façonnées à la main et mûries dans le secret de longues nuits blanches. Après, je me console en me disant que finalement, chroniqueur, farceur, étymologiste et même fleuriste, c'est finalement le même combat, c'est celui de travailler à la racine pour mieux faire éclore les pensées.
Exactement, et un métier en histe, toujours pour vous, puisque vous êtes humoriste.
Effectivement, entre autres.
Tout va bien, donc vous êtes resté fidèle. Merci beaucoup Cynthia Isarelli, l'humoriste belge de grand talent. Merci d'avoir participé à la librairie francophone estivale cette saison, Cynthia. À bientôt.
À bientôt, merci à vous.
À bientôt. Avant de retrouver Tahar Benjelloun, Leïla Slimani et Abdal Malik dans le club francophone, voici Les Innocents en mini-concert pour la librairie francophone. On était justement à Bruxelles, on reste en Belgique sur notre plateau en public avec leur tube Color. Merci à vous d'écouter la librairie francophone estivale à travers le monde.
Color, le monde sans feutre, sans épreuve ni bombe, indolore les murs et coule dans le fleuve la facture en monnaie de singe, fraîche, blanche comme le linge, à jamais répand du phare sur les hommes, car le temps colore la foule, colore mes veines, chaque jour il me révèle en chair de poule. En bleu du ciel et la foule sort de mes veines. Oui, comme le temps est un ami, il colore mon pays. Des dieux, mes sœurs, j'en vois de toutes les couleurs. Pour des cieux, mes frères s'engagent sur des routes à l'envers. Mais là-haut, on décide, fait le ménage, fait le vide. Et sur la peau, répand du phare sur les hommes. Comme le temps colore la foule, colore mes veines, chaque jour il me révèle. En chair de poule, en bleu du ciel, et la foule sort de mes veines. Oui, comme le temps est un ami, colore mon pays. Oui. Oh, 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 oh.
Les Innocents Color dans une version inédite pour la librairie francophone et dans la librairie francophone estivale de Bruxelles. On part à la Maison de la Radio à Paris pour un club francophone exceptionnel, là aussi en public.
Radio-Télévision Suisse, RTBF,
Radio-Canada, France Inter,
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Merci à vous.
Bonjour à tous, bienvenue dans le studio 106 donc de la Maison de la Radio. C'est une rencontre exceptionnelle et unique que nous vous proposons aujourd'hui. Dar Benjelloun, Leïla Slimani, prix Goncourt 2016 pour son roman Chanson douce. Et l'artiste Abdal Malik, passionné de culture et de littérature, il a rendu hommage à Albert Camus avec un spectacle et un livre, Camus, l'art de la révolte, paru chez Fayard. Merci d'être avec nous, vous pouvez déjà les applaudir. Et bonjour Tahar Benjelloun.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez choisi avec nous ces invités qui vont lire d'ailleurs des extraits de votre dernier roman, Le mariage de plaisir. Que représente cette nouvelle génération d'auteurs pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, de leur transmettre?
D'abord, ils ont la passion de l'écriture, de la littérature, et ils ont une très grande rigueur dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils écrivent. Et c'est ça ce qui est formidable. Quand il y a le talent, moi je suis toujours avec le talent.
Bonjour Leïla Slimani.
Bonjour.
L'œuvre de Tahar Benjelloun, ça vous a inspiré, ça vous a aidé pour l'écriture à un moment donné, parce que c'est votre deuxième roman seulement, hein, vous êtes une jeune auteure. Vous êtes inspirée de Benjelloun?
Oui, bien sûr. Vous savez, pour une jeune Marocaine qui en même temps écrit en français, Tahar Benjelloun, c'était évidemment un auteur incontournable pour moi. J'ai suivi toute sa carrière depuis que je suis adolescente, depuis que je lis. J'ai lu ses livres et ça m'a évidemment profondément influencée, habitée. Mais au-delà de ses livres, ses prises de position aussi, ses essais qui ont été aussi très importants. Donc la construction d'un intellectuel libre de sa parole... et dans sa façon de s'exprimer, ça aussi c'est très important pour moi.
D'accord, bonjour Abdal Malik.
Bonjour.
Voilà, on est ravis de vous avoir aussi. Je vous ai proposé de lire Tahar Benjelloun après une émission, je me souviens, et puis on avait parlé avec Tahar évidemment, et vous avez accepté tout de suite.
Bien sûr.
Alors, du coup, vous avez un point commun, parce qu'on s'aperçoit que vous aimez Camus tous les deux. Tahar Benjelloun le cite d'ailleurs, Albert Camus, dans son dernier essai contre le terrorisme. Et puis, vous avez une perception particulière, vous, je crois, de l'œuvre de Tahar Benjelloun. Vous êtes très admiratif.
Oui, totalement. Pour moi, Tahar Benjelloun, c'est l'un de nos plus grands écrivains. Et c'est vrai que je considère depuis toujours que mon pays, c'est la langue française. Et c'est vrai que tout le travail de Tahar Benjelloun, autant dans sa manière d'être écrivain et en même temps dans ses engagements, dans les différents livres qu'il écrit aussi pour décrypter le monde, en tout cas nous aider à comprendre, à mieux comprendre le monde, il fait partie de ces écrivains qui ont une dynamique qui est vraiment inspirante pour nous autres. À chaque fois, je parle de mon grand amour pour le Maroc, je suis marocain de cœur, et donc c'est merveilleux. Voilà, une figure comme ça, c'est une figure importante et essentielle pour nous autres.
Leïla Slimani, la culture favorise-t-elle pour vous le dépassement de soi?
Ah oui, évidemment. Moi, je retiendrai deux choses dans ce qu'on vient de dire. C'est la notion d'abord d'ouverture, ouvrir des horizons. Moi, je me souviens de la fascination que j'avais enfant quand j'avais 12-13 ans et que je disais Dostoïevski ou Garcia Marquez ou Jack London et que j'avais le sentiment dans ma petite chambre à Rabat de toucher du doigt ces pays, ces personnages, ces gens, de comprendre leur langue, de comprendre leur âme. C'est quelque chose qui affranchit la littérature. À la fois, quand vous êtes un lecteur, ça vous affranchit de tout, de votre condition, de votre sexe, de votre position sociale. Mmh. Et quand vous écrivez, vous ressentez ça, puissance 1000, vous vous sentez affranchi de tout derrière votre table de travail.
Le dépassement de sa condition, il en est question dans votre roman, Tahar Benjelloun, Le mariage de plaisir. Vous racontez la vie d'un homme qui va se marier deux fois et qui va être pris au piège de l'amour en quelque sorte. Alors il y a deux jumeaux qui vont naître, l'un blanc, l'autre noir. Leur parcours de vie ne va pas être le même en raison de leur couleur de peau.
Oui, alors c'est un roman d'amour et un roman sur le racisme anti-noir qui existe dans mon pays, le Maroc. Comme j'avais beaucoup écrit sur le racisme à partir de la France, je me dis quand même, le Maroc ne va pas faire exception. Toutes les sociétés du monde pratiquent le racisme. Chacun a son racisme, chacun a sa bête noire, si je puis m'exprimer ainsi. Et au Maroc, les gens n'aiment pas les gens de couleur, ils n'aiment pas les noirs. C'est pas un racisme très profond, mais il peut être violent et tragique.
Alors vous avez choisi un extrait de ce roman pour une lecture de Leïla Slimani. Amir, votre personnage, est heureux dans son mariage, mais il a succombé à la tentation donc d'un mariage de plaisir à durée déterminée, donc avec une autre femme. Je vous propose de vous installer, Leïla Slimani, juste en face, il y a un micro. Je vais vous donner évidemment le livre.
Et la page.
Et la page.
Sinon, il va tout lire et on en aura pour toute la soirée.
Et Leïla. Voilà, Leïla Slimani lit Tahar Benjelloun, ici depuis le studio 106 de la Maison de la Radio.
Amir, heureux, comblé par cette femme si jeune, si intelligente, si belle, se fit la réflexion qu'il n'avait pas connu ce sentiment avec Leila Fatma. Leur mariage s'était déroulé selon les règles de la tradition. Ils ne s'étaient pas choisis et malgré cela, ils devaient s'aimer, c'est-à-dire faire ce que la famille attendait d'eux, des enfants. Emir n'avait pas dérogé à cette règle. Son épouse était tombée enceinte au premier trimestre de leur union. Y avait-il de l'amour entre eux? On ne se posait pas la question. Les apparences étaient sauves. Le commerce d'Amir se portait bien et Leila Fatma régnait en maîtresse incontestée sur la maison et sur l'éducation des enfants. On ne ratait aucune fête, aucune invitation familiale. La tradition était parfaitement respectée. Rien ne devait contrevenir à cette organisation établie depuis des siècles. Dans cette ville de Fès, renfermée sur elle-même, creusée de la civilisation arabo-andalouse, on ne plaisantait pas avec les convenances. Emir était le mari de Leila Fatma. Leila Fatma était sa femme. Ce lien ne souffrait aucune discussion. Pour la première fois, Emir pensa qu'il y avait peut-être une autre manière de vivre. Il s'aperçut que les sentiments qu'il éprouvait à l'égard de Leila Fatma étaient très différents de ceux qu'il ressentait dans les bras de Nabou. Sa vie lui sembla tout à coup bouleversée. Il décida de ne pas freiner ses élans et sa passion. Emir amoureux. Ses amis du Diwan se seraient moqués de lui s'il leur avait parlé de cette sensation qu'il éprouvait pour la première fois. Il n'avait jamais dit « je t'aime » à aucune femme, ni offert des fleurs ou exprimé ses sentiments. Ainsi le voulait son éducation, stricte. On n'exhibait pas ses faiblesses devant une femme. Être amoureux était considéré comme une faiblesse, une sorte d'anomalie.
Leila Slimani qui lit Tahar Ben Jelloun depuis le studio 106. Merci beaucoup Leila, félicitations. Une réaction à Tahar Ben Jelloun parce qu'on va la laisser boire un petit peu d'eau Leila Slimani. Là.
Enfin elle lit avec son cœur, c'est ce qui est bien.
Oui c'est vrai.
Très très bien Slimani, merci beaucoup.
Tahar Ben Jelloun, vous avez été en révolte vous à un moment dans votre vie?
Ben, c'est la révolte qui fait l'écriture, parce que si d'abord le confort et les choses paisibles, ça n'a jamais donné de la littérature. Et puis il n'y a pas de littérature gentille, il n'y a pas de littérature calme et paisible. Toute littérature, c'est un dérangement, c'est une... Moi, je le conçois comme ça. Hein. L'homme révolté de Camus, ça m'avait ébranlé quand j'avais 16 ans, quand je l'ai lu. C'est pas nouveau, ça a toujours été, le monde a toujours été violent. Et je dis toujours que, quand même, nos grands-parents ou les gens qui sont bien plus âgés que nous ont vécu l'horreur absolue dans les années 40. Aujourd'hui, on vit pas la même chose, heureusement. On vit d'autres violences. Fondamentalement, aussi bien la colère de Abdelmalik que la perspicacité, l'espèce de recherche qu'il y a chez Leila Slimani qui va voir les choses dans le détail qui dérange. Eh bien, ça, c'est ça le rôle de l'écrivain. C'est d'être l'observateur qui voit ce que les autres ne veulent pas voir ou qui essaie un peu de dissimuler.
Alors, Abdelmalik, vous allez lire un extrait de Tahar Ben Jelloun. Juste avant, vous allez lire un extrait sur le racisme, justement. C'est ce qu'il a choisi, hein, Tahar. Ça vous procure quelle forme de révolte, ça, cette différence entre les noirs et les blancs que l'on établit et que l'on établit dans le livre de Tahar Ben Jelloun, l'extrait que vous allez lire?
Ben, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, cette idée qu'on doit chercher du lien, on doit chercher ce qui nous rassemble. Mais encore une fois, il faut comprendre comment on en arrive là. Et de mon point de vue, l'art, la culture, la littérature, enfin, c'est le dernier lieu de résistance, le dernier endroit où on dit haut et fort qu'on est des êtres humains et le dernier endroit où on dit non et on agit en conséquence. On est là à dire nous sommes des êtres humains, nous sommes un. Et que la diversité n'est jamais une tare. C'est un cadeau, c'est quelque chose de merveilleux. Et on ne fait qu'exalter ça, on ne fait que magnifier ça.
Allons-y, je vous laisse vous installer à votre pupitre. Vous avez repéré l'extrait, c'est bon? Vous avez la page? Voilà, parfait. Abdelmalik.
Chez Ralph et Juan Carlos, Hassan était parfois en contact avec un milieu sophistiqué de gens huppés, bien dans leur peau argentée et fiers de leur extravagance festive. Il avait pu, maintes fois, mesurer combien Tanger était une ville complexe, flirtant avec des perversités et des contradictions que seul le vent d'Est réussissait à calmer. Où était sa place? Qui était-il? Et si c'était moi, l'espoir et l'honneur de la tribu choisie pour tenter la traversée vers le paradis? Oui, c'est moi, c'est bien moi. Ma peau est noire, tout à fait noire. Elle ne craint pas le soleil, elle brille à son toucher. Je suis africain. J'ai marché des jours et des nuits dans les sables, traversé des montagnes, des lacs et des forêts. Je suis un clandestin, le clandestin en chef. Je sais d'où je viens, mais j'ignore où je vais.
Hassan évita de monter dans un taxi collectif. Il avait assez entendu de commentaires hideux à l'aller pour ne pas avoir à en supporter de nouveau. Il marcha le long de la route, ne se retourna pas et pensa à son fils, Salim. Il se demanda s'il était assez solide pour supporter cette haine gratuite, s'il était suffisamment armé pour se défendre contre les imbéciles, se reprocher de ne pas l'avoir préparé à vivre dans un pays où le fait d'être noir n'était pas une chance.
Abd al-Malik, un extrait du mariage de plaisir de Tahar Ben Jelloun. Magnifique Abd al-Malik, magnifique.
Merci.
Vous avez réussi à émouvoir Tahar Ben Jelloun, que je connais bien aussi et qui n'est pas souvent ému comme ça. Il faut y aller pour l'émouvoir.
Je suis honoré.
Parlons d'engagement, tiens, à présent, Tahar Ben Jelloun, avec vos livres pédagogiques sur le racisme, l'islam ou encore dernièrement sur le terrorisme. Vous portez une parole engagée, vous avez aussi publié des tribunes dans le journal Le Monde, et notamment après l'attentat de Nice. Juste après, vous avez écrit un long texte qui a beaucoup fait réagir. Qu'est-ce que vous cherchez à dire à ce moment-là avec ce genre d'écriture? Parce que c'est un autre style d'écriture, ça. Qu'est-ce que vous cherchez à faire au moment où vous vous lancez dans une tribune?
Oui, pour un écrivain, il ne va pas attendre un an pour écrire un livre, pour réagir. On est sollicité par l'histoire immédiate, l'histoire quotidienne, et moi je peux pas me taire. J'ai été élevé comme ça. Il faut intervenir, il faut dire les choses. À un certain moment, quand les consciences se taisent ou les regards se détournent. Donc c'est important pour un écrivain d'intervenir sur le quotidien, la vie quotidienne où il se passe des choses parfois tragiques et comme ces attentats terribles, que ce soit le 13 novembre ou à Nice, ou alors cette horreur d'avoir égorgé ce prêtre de 86 ans. Ce sont des choses qui dépassent l'imagination et on ne peut pas ne pas réagir.
Même si on est soumis encore plus à la critique, alors à ce moment-là, évidemment, parce que ce genre
la
de
critique,
texte,
on s'en fout. La critique principale, c'est de dire, d'être sincère. Je peux me tromper, mais je dis ce que je pense. Alors évidemment, j'ai fait cette lettre aux musulmans pour leur dire, on est en train de faire des choses horribles en votre nom. Il faut réagir, il faut faire quelque chose, il faut descendre dans la rue. Et je sais que l'écrasante majorité des musulmans dans ce pays sont des gens paisibles, qui vivent tranquillement, qui n'ont pas de haine, n'ont pas de violence en eux. Mais il suffit de quelques éléments égarés ou perturbés ou totalement récupérés par le crime et le meurtre pour que tout cela retombe sur toute la société et cette population.
Leïla Slimani, il y a le Tunisien Ali Becher, que vous connaissez sans doute, l'écrivain Ali Becher, qui a dit que la culture et la francophonie étaient les remparts contre le fondamentalisme, que c'était les seuls remparts contre le fondamentalisme dans les pays du Maghreb. Vous êtes d'accord avec lui?
Vous savez, juste après les attentats du 13 novembre, j'ai écrit pour Eric Fotorino et pour le journal Le 1, j'ai écrit une tribune dans laquelle je disais justement ça. Si vous regardez aujourd'hui le monde arabo-musulman, c'est une des parties du monde où on lit le moins, malheureusement. On lit très très peu, on donne très peu de livres aux enfants. Quand vous rentrez dans des maisons où il n'y a pas de livres, où il n'y en a qu'un seul, et que ce seul livre, on vous explique qu'il n'est pas discutable, qu'il n'est pas interprétable, qu'il n'est pas débattable. Évidemment, vous enfermez les gens dans une façon de penser qui est mortifère, qui est terrible, qui, à l'inverse de l'ouverture dont on parlait tout à l'heure, enferme complètement. Et je suis absolument persuadée que quand on donne des livres aux gens, les gens ont soif de culture, les gens ont soif de débat, les gens sont fatigués d'être dans des pays où il y a une parole qui est hypocrite, qui est langue de bois. Les jeunes n'ont qu'une envie, c'est de parler avec vous et de s'ouvrir. Donc il faut avoir le courage parfois de faire autre chose que simplement parler, c'est d'aller là-bas et de parler avec les gens, d'accepter le débat qui peut être désagréable pour nous ou en tout cas voilà violent, virulent et tout, mais les gens ont envie de ça, et cette culture-là, on doit la transmettre, la donner.
Leïla Slimani, chanson douce, c'est chez Gallimard. Le mariage de plaisir de Tahar Ben Jelloun, également chez Gallimard. Abd al-Malik, Camus, l'art de la révolte, chez Fayard. Et puis, le terrorisme expliqué à nos enfants aux éditions du Seuil. Merci beaucoup à tous les trois. C'était un grand plaisir, vraiment. C'était un grand honneur pour moi, je le dis rarement, mais de vous avoir tous les trois. On a monté cela avec Radio France, avec Tahar Ben Jelloun. Et c'est une rencontre que je trouve, moi, exceptionnelle. J'espère que ça vous a plu.
Merci beaucoup. Merci.
Et on termine avec le bonus du club et Tahar Ben Jelloun qui raconte les coulisses du prix Goncourt.
Parlons un petit peu du prix Goncourt, justement, Tara Benjelloun. Vous êtes membre de l'Académie Goncourt. Comment se passe la désignation du lauréat? Il y a cette rumeur persistante comme quoi c'est un peu obscur. Il y a des jeux entre les maisons d'édition. Un coup, c'est Gallimard. Un coup, c'est Grasset. C'est fini, tout
non,
ça?
Non. D'abord, une chose est vraie. On ne parle jamais d'éditeur. On parle des livres qu'on a lus.
Ouais.
On a aimé ou pas aimé, peu importe, mais on en parle beaucoup. Avec évidemment sa subjectivité, on aime un livre, on le défend.
Ouais.
Mais parfois, les autres n'aiment pas ce livre. Alors, il faut convaincre. Mais avec, par exemple, cette année, avec Chanson douce, moi, je suis très content parce que le livre se défendait tout seul. Il n'avait pas besoin. J'ai pas fait campagne pour ce livre. Parce qu'on ne peut pas faire campagne pour un livre qui n'est pas bon. C'est impossible. Parce que, ils vont le lire et c'est des grands lecteurs, c'est des grands écrivains. Et on dit, tu te fous de ma gueule, c'est pas possible, tu vas pas me faire lire ça. Donc, quand on défend un livre, c'est que le livre lui-même se défend. Ouais. Mais il faut parfois juste le faire lire.
Il n'y a pas de magouille, pas de combine.
On attend toujours l'argent, mais personne ne va nous en donner. Alors, on est un petit peu désespéré.
Vous attendez votre chèque,
mais,
là.
Non, le problème, c'est que, d'abord, le prix Goncourt, c'est quelque chose qui est unique dans le monde.
Ouais.
J'ai vu beaucoup de prix littéraires dans beaucoup de pays. Il n'y a que le prix Goncourt qui fait arriver sur la place Gaillon, au restaurant Drouan, une centaine de caméras, de photographes, de journalistes, parfois même des journalistes étrangers. Et ça fait la spécificité de la France. Il n'y a qu'en France où un prix littéraire est couvert comme la mort d'un président.
Presque.
Presque. Ou alors la victoire d'un autre président.
Ça dépend lequel.
Oui,
merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous, Emmanuel Kérad, à la rédaction Jean-Philippe Véret et Leïla Kourousselikoua en France, avec les équipes de la RTBF, de la RTS, de Radio-Canada et de RFI. À la réalisation, Christophe Humbert, avec Florent Beauvallet à la technique. La semaine prochaine, nous irons dans la campagne belge avec le poète William Cliff. En Suisse, dans l'aéroport de Genève et au bord du lac Léman, Juliette Gréco vous emmènera à Saint-Tropez et Véronique Ovaldé, avec son invité Philippe Jaén Nada seront dans le club francophone. Merci pour votre fidélité. Bon week-end et bel été à tous.